Collège public CADES, bonjour. La leçon d'aujourd'hui, la Seigneurie de Jésus.
On avait vu philosophie, l'insatisfaction, connaître Dieu, et maintenant cette leçon-là, c'est la Seigneurie de Jésus. Jésus est Seigneur. On commence avec Jérémie au chapitre 10 et au verset 23. Il faut savoir, et c'est important pour nous, que Dieu ne nous a pas créés pour être indépendants ou pour diriger nous-mêmes notre propre vie. On n'a pas été fait dans ce but-là. Jérémie prophétise et dit « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Non pas que l'homme n'est pas libre, l'homme est parfaitement libre. Mais si l'homme choisit de lui-même sa propre direction, devinez quoi, c'est la mauvaise. Proverbe 14, 12 et on va lire Proverbe 16, 25. Vous allez voir que ces deux versets s'appuient l'un l'autre. Proverbe 14, 12. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Proverbe 16, 25. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » C'est le même verset qui est mis deux fois dans les Proverbes. C'est important. Lorsque nous décidons nous-mêmes, ou lorsque l'homme non régénéré de manière naturelle décide de quelque chose, sa voie lui paraît juste, mais en réalité, c'est la mort. Tant qu'il n'a pas choisi la voie qui mène à Dieu, c'est la mort. Proverbes 3, 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il aplanira tes sentiers. Une fois de plus, on voit que le désir du Seigneur, c'est de nous faire prospérer. C'est d'aplanir nos sentiers. À nous, notre responsabilité, de nous confier en lui. Confier, ça veut dire avoir la foi en lui. Croire qu'il est bon. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ça veut dire tu ne vois pas probablement là où ce chemin mène, mais aie confiance que celui qui te dit qu'il faut marcher sur ce chemin, c'est le bon chemin. Et c'est la bonne personne qui te le dit. Se confier en quelqu'un, c'est prendre le risque de suivre ce que dit la personne sans avoir forcément compris, sans avoir forcément tout en tête. Je vais me confier en l'Éternel. Et lorsque je me confie de tout mon cœur, et on retrouve encore une fois le mot cœur, c'est pas juste, je sais qu'il faut suivre Dieu, d'accord. Non, c'est tes pensées les plus profondes. C'est les choses qui restent quand on, si on gratte un petit peu. C'est pas juste le superficiel, c'est ce qui est vraiment profond. Il y a des gens qui vont être très bons chrétiens quand on les voit le dimanche. Mais si tu grattes un petit peu, c'est beaucoup moins joli à voir. Ça arrive. Eh bien, il est important pour nous que, quand bien même on gratte, on continue, nous, à se confier dans le Seigneur. Et savoir que c'est lui qui doit diriger mes pas. Il faut qu'on se rende nous-mêmes dépendants de lui. Il faut qu'on accepte de dire, « Oui, je sais que ce n'est pas à moi de diriger mes propres pas. C'est bien moi qui vais marcher. » C'est bien moi qui vais choisir là où je marche. Mais par contre, celui qui m'indique la direction à suivre, c'est Dieu. C'est lui qui me dit, qui doit nous dire d'aller quelque part. Et là, ça ne dépend pas d'ailleurs de nos capacités, ça ne dépend pas de nos compétences particulières. Lorsqu'un homme veut diriger ses propres voies, qu'est-ce qu'il va faire? Naturellement, il va se tourner vers ce qu'il sait le mieux faire, vers ce qui lui paraît le plus facile ou le plus agréable. En fonction de ce qu'il sait, de ce qu'il connaît, de ce qu'il a envie. Mais quand Dieu parle, il va t'amener à faire quelque chose dont tu n'es pas forcément capable de faire. Parce que justement, il veut que tu te confies en lui, il veut que tu aies confiance en lui plutôt qu'en toi. Et il veut que toi, tu ne diriges pas tes propres pas. Ce n'est pas toi de dire, bah, tiens Seigneur, maintenant, on va prendre un petit virage sur la gauche ou un petit virage à droite quand lui veut qu'on aille là. Et croyez-le ou non, mais les mauvaises choses dans nos vies, en général, interviennent parce qu'on n'a pas entendu ou obéi à la voix du Seigneur, de manière générale. Je ne vais pas dire que c'est tout le temps, Mais bien souvent, c'est lorsque nos voix ne sont pas aplanies, lorsque on n'a pas entendu la voix du Seigneur, et bien il y a des grosses, grosses difficultés. Alors, il y a aussi, pour être honnête, des difficultés quand on entend la voix du Seigneur. Mais la différence, c'est qu'à ce moment-là, on a cette confiance en lui en disant « Oui, il y a des difficultés, mais je sais que je peux continuer à avancer parce que tu es avec moi. » Si on va dans une autre direction et qu'on n'est pas sûr que Dieu est avec nous, c'est très dur. Parce qu'on se dit « J'ai des difficultés, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut que je fasse demi-tour? Est-ce qu'il faut que je continue ?» D'où l'importance pour nous d'apprendre et de perfectionner le fait d'entendre la voix de Dieu pour qu'on entende vraiment précisément sa voix. On retourne à Genèse, au chapitre 3, puisque on a vu que le diable a tenté par l'insatisfaction. On a vu également que le diable a attaqué sur la bonté de Dieu. Et on va voir maintenant que le diable a aussi attaqué sur la seigneurie de Dieu, ou de Christ. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Quand la femme répond au diable, eh bien, elle ne dit pas réellement ce que Dieu avait dit. Elle a rajouté effectivement à ce que Dieu avait dit. Elle a dit, Dieu a dit, vous ne devez pas y toucher. Vous ne devez pas le manger, vous ne devez pas y toucher. Donc, Genèse 2, versets 16 et 17, nous montre précisément ce qui s'était passé. Dieu avait parlé à Adam et lui avait dit, l'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Une première question à se poser, c'est comment ça se fait que Ève a rajouté quelque chose? Bien, une raison évidente, c'est qu'elle n'a pas entendu cette parole de Dieu. Elle n'existait pas à ce moment-là. Elle a entendu cette parole au travers de Adam. Quelque part, ce n'était pas sa propre révélation, c'était la révélation au travers d'Adam. Quand elle a dit « Dieu a dit », elle aurait pu peut-être dire « Dieu a dit à Adam, qui m'a dit ?» Et en plus, effectivement, elle a rajouté quelque chose. C'est important pour nous, lorsqu'on entend plein de choses, lorsqu'on étudie ensemble la parole de Dieu, lorsqu'il y a des phrases qui nous parlent, que ces choses-là deviennent notre propre révélation. On ne doit pas vivre sur les révélations d'un autre. Combien de fois ça nous arrive de dire « un tel a dit telle chose, c'est super. J'ai entendu telle personne dire ci, dire ça. » Il n'y a rien de mal à dire ça. Mais là où on devrait aller, c'est de se saisir de cette vérité au point qu'elle devienne la nôtre et qu'on puisse dire « Dieu m'a dit que ». Bien sûr, ça peut être passé au travers de quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas le problème. Il faut que ça soit ma révélation. Parce que si ce n'est pas ma révélation, regardez ce qui s'est passé dans Actes au chapitre 19. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Est-ce que c'est vraiment ta révélation? Si ce n'est pas ta révélation, ce n'est pas ta semence. Ce n'est pas quelque chose qui va germer dans ton cœur, ça aura germé dans le cœur de quelqu'un d'autre. Et ça ne suffit pas. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle le diable s'est adressé à Ève plutôt qu'à Adam. J'en suis pas sûr, mais ça pourrait être ça. Parce que c'est plus facile de s'attaquer à quelqu'un qui a la révélation de quelqu'un d'autre, qui n'est pas en fait sa révélation profonde, mais qui est finalement, moi je m'appuie sur tel grand personnage qui à la fois, parce que telle personne a prié et que j'ai vu que ça avait marché, moi je fais la même chose. Mais on n'a pas vu ce que cette personne a planté dans son cœur. On va voir le fruit, on voit l'arbre, on voit des belles choses. On ne sait pas le temps que la personne a passé pour que ça plante dans son cœur. Et à nous aussi, de prendre le temps pour que ces paroles-là soient les nôtres. Qu'à un moment donné, ce qu'on exprime vienne de nous et pas de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai appris ça. Il y a des choses que je dis dont je sais que les autres disent parce que je les ai entendues d'autres, mais c'est devenu quelque chose à moi sur lequel je peux m'appuyer fermement. Parce que quelque part, je peux dire maintenant, oui, en fait, Dieu me l'a dit. Et ça, c'est important, puisque on le voit là-dessus, Ève a eu du mal à faire quelque chose, à résister à la tentation du diable. Et le fait de rajouter, on le voit dans Apocalypse, vous connaissez ce passage, hein, Apocalypse 22, il est dit au verset 18, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. » Donc bien sûr, ça parle de la prophétie de l'Apocalypse, mais de manière générale, le message qui est derrière veut dire quand Dieu dit quelque chose, tu n'as pas le droit d'enlever à ce que Dieu a dit ou de rajouter à ce que Dieu a dit. Remarquez que ce sont les milieux religieux qui ont tendance à rajouter à ce que Dieu a dit ou enlever à ce que Dieu a dit. Oui, bien sûr, il est écrit que les croyants, ceux qui croient, imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui, mais bon, ça, c'était que dans un contexte. C'est parce que maintenant, c'était du temps des apôtres. Ça s'appelle rajouter à la parole de Dieu. Le fait de rajouter des choses, c'est quelque chose de religieux. Le fait d'enlever des choses, c'est quelque chose de religieux. Et nous devons avoir des révélations appuyées sur la parole de Dieu, qui sont vraies, qui nous remettent nous-mêmes en question souvent. Parce que ça nous remet en question de dire, eh bien, si les croyants imposent les mains aux malades, et les malades sont guéris, et c'est ce qui est écrit, et que je ne le vois pas avec mes yeux, à un moment donné, je dois tirer un constat. Soit je jette la faute à Dieu, et je dis, ben, c'est parce que c'était plus ton moment, tu ne le veux plus, tu remets en question la bonté de Dieu, tu trouves une solution, et tu jettes la pierre à Dieu, ou la patate chaude à Dieu. Soit tu dis, ben, peut-être que je n'ai pas tout compris. Peut-être que j'ai besoin de grandir encore. Peut-être que j'ai besoin d'apprendre de Dieu. Peut-être que je n'ai pas suffisamment la foi. Peut-être que je n'ai pas telle ou telle chose, mais je sais en tout cas que ce qui est écrit, ce que Dieu a dit est vrai, et parce que c'est vrai, je vais le vivre. Voilà. Et après, on apprend tous, et c'est pas mal d'apprendre, au contraire. C'est comme si on a envie de jouer à l'opéra devant tout le monde un beau morceau de violon parfaitement, et quelque part, on n'a pas envie de jouer des gammes. On n'a pas envie de passer des heures et des heures à jouer des trucs inaudibles. Parce qu'on veut tout de suite, parce qu'on n'attend qu'une chose, ah là, au moins ce sera visible. Mais c'est la même chose que de planter dans son cœur. C'est la même chose que de dire, ok, peut-être que je me suis présenté devant tout le monde, j'ai joué et j'ai reçu des tomates pourries. Mais peut-être qu'il faut que je revoie un peu ma copie. Peut-être qu'il faut que je réapprenne, peut-être qu'il faut que je persévère dans ce que j'ai fait. C'est pas grave, je sais que le Seigneur m'a appelé de toute façon à jouer ce morceau. Peut-être que c'était trop tôt. Vous savez, par exemple, que Moïse, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais Moïse s'est levé trop tôt, 10 ans trop tôt. D'où les 40 ans qu'il a passé ensuite tout seul, jusqu'à 80 ans. Mais bon, on aura l'occasion d'en parler peut-être une autre fois. Mais si vous regardez ce qu'a expliqué Étienne lors de sa lapidation, qui doit être dans Acte 7, si je ne me trompe pas, il a parlé de 430 ans de captivité. Or, Dieu avait prévu et prophétisé 400 ans uniquement. Il y a eu 30 ans de trop. Et on sait que Moïse a passé 40 ans tout seul dans le désert. Si vous faites le calcul, il s'est levé 10 ans trop tôt. Il a voulu intervenir, il a voulu aller au-delà de ce que Dieu avait prophétisé, de ce que Dieu avait voulu pour lui. Ça a coûté énormément pour lui et pour combien de milliers de personnes qui sont mortes dans l'esclavage pendant 30 ans. C'est important d'entendre la voix de Dieu. C'est important de ne pas vouloir aller plus vite que la musique. C'est aussi important de ne pas vouloir tout arrêter. Voyez par exemple dans le psaume 149, verset 3, juste pour parler de la religion. Vous voyez, bien souvent, quand on va aller à l'église, eh bien, on va vouloir se tenir correctement. On sait que Dieu est un Dieu d'ordre et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et que du coup, eh bien, quand j'arrive dans l'église, ben forcément, il faut que j'ai une attitude bien sous tout rapport. Je ne fais pas de bruit, surtout je ne dérange pas, je suis très spirituel, etc., etc. Psaume 149, 3 nous dit qu'il loue son nom avec des danses, qu'il célèbre avec le tambourin et la harpe. Avec des danses, hein. Et psaume 150, verset 4 nous dit « Louez-le avec des tambourins et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. » Louez-le, louez Dieu, même avec des danses. Mais il y a beaucoup d'églises où si tu danses, tu es mal vu. Hein? Ça aussi, c'est un esprit religieux qui va rajouter à la parole de Dieu, qui va dire « Non, 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 c'est pas comme ça qu'on fait. » Alors, quelque chose de très intéressant là, Genèse 3, 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle prit de son fruit et en mangea. Alors, c'est peut-être anecdotique pour vous, mais moi, ça me semble important. Il n'est pas simplement dit « elle en mangea ». Il est dit « elle prit de son fruit et elle en mangea ». C'est-à-dire qu'elle a commencé, rappelez-vous qu'elle a dit au diable, Dieu a dit « tu ne dois pas toucher ni manger ». Et elle a commencé à désobéir par le fait de prendre, de toucher. Et quand elle a vu qu'elle a touché et qu'elle ne mourait pas, puisqu'elle, de toute façon, elle ne désobéissait pas à Dieu, elle a été renforcée dans le fait de croire le mensonge que, mais oui, Dieu est un menteur. Mais oui, en fait, le serpent avait raison. J'ai touché, il ne se passe rien. Donc maintenant, je peux manger. Elle a franchi un cap, et ce cap-là, qui a été franchi, est venu, entre guillemets, vis-à-vis de la religion. La religion a rajouté telle chose qui en fait était fausse et qui l'a amené à persévérer dans son erreur, puisqu'elle a démonté un mécanisme qui n'en était pas un. Du coup, ça l'a renforcé dans le fait, ben oui, je peux continuer. Et c'est pareil avec ce que vont dire telle ou telle religion, où les gens vont se rendre compte qu'en fait, ben, ça ne correspond pas dans la vraie vie. Tiens, finalement, j'ai pas été foudroyé sur place là, alors que j'ai fait cette chose-là. Alors que tel pasteur, tel curé m'avait dit que j'irais en enfer tout de suite, etc. Tiens. Et puis ça renforce le fait, ben non, donc c'est faux. Et on enchaîne finalement dans le mensonge et dans le piège où le diable veut nous mener. D'où l'importance pour nous d'être vraiment fidèles à la parole et uniquement à elle. Et pas en rajouter, pas en enlever. Ensuite, un autre point qui est important à voir, c'est que la tentation, de manière générale, fonctionne, ou plutôt a pour racine, l'égoïsme, l'égocentrisme. Quand on y réfléchit, tout tourne autour du « moi ». Et c'est ça qui agit et qui donne vie à toute forme de tentation. Finalement, qu'est-ce qui était important pour Ève ? Elle-même de recevoir quelque chose. Ça tournait autour d'elle. Il fallait qu'en mangeant ce fruit, je puisse devenir comme Dieu. Je puisse connaître plus, je puisse même aller au-delà de ce que Dieu avait prévu pour moi, d'après le diable, d'après le serpent. En tout cas, ça tourne autour de soi-même. Et vous remarquez que c'est vrai dans la plupart des péchés, ou pour pas dire tous, mais quelqu'un va voler, pourquoi ? Parce qu'il estime qu'il manque, lui, de quelque chose, ça tourne autour de lui. Quelqu'un va tuer parce que l'autre le dérange. Quelqu'un va commettre un adultère parce qu'il a envie de se satisfaire lui-même. Tout tourne autour de soi. Et c'est important, justement, pour nous d'être conscients de ces choses. Regardez ce qui est écrit. Alors là, je vous rajoute les références. Proverbe 13, 10 et Proverbe 17, 14. Proverbe 13, 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles. C'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles. Quand il y a une querelle, c'est parce qu'il y a des gens orgueilleux dans l'affaire. Et Proverbe 17, 14 nous dit « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. » On pourrait dire « Oui, mais bon, pas grand-chose la querelle. » Mais si, si, c'est ouvrir une digue. Ça commence comme ça, et ensuite ça peut aller jusqu'à plus de limites, les querelles. Eh bien, pour éviter les querelles, il faut éviter l'ego, l'égoïsme, l'égocentrisme. Vous savez d'ailleurs que l'orgueil, c'est se voir trop haut, quelque part. Tiens, on va lire Ézéchiel 28, verset 14. Ézéchiel 28 nous parle du prince ou du roi de Tyr. Et ce roi de Tyr est en fait une image pour expliquer ce qui s'est passé au niveau de Lucifer, au niveau de Satan. Il est dit, on peut lire le 13 même, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » Tiens, tiens. « Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. » Il était très élevé, Lucifer. « Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. » Voilà l'orgueil. L'orgueil qui a amené toute la suite que l'on connaît. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. C'est pas brillant. Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil manifesté au maximum, c'est Satan. Voilà, tu es tellement beau que tu te crois arrivé et maintenant tu veux même prendre la place de Dieu. Ça, c'est l'orgueil. Bien, vous savez qu'il y a aussi une deuxième forme d'orgueil qui est non pas le fait de se voir trop beau, mais le fait de se voir trop laid. Ça s'appelle la timidité. C'est exactement l'inverse et c'est la même racine. La timidité, c'est une manifestation extrême d'orgueil, où tout tourne autour de soi-même. En fait, c'est être obsédé par ce que pensent les autres de toi. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et du coup, eh bien, tu as peur de ne pas être accepté, tu as peur de ne pas être aimé, tu penses qu'à toi et en fait, ça te détruit. Et c'est aussi de l'orgueil. Nombre 12, 1 à 3. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» Et l'Éternel l'entendit. Et dans la version second 21, qui me semble être un peu plus juste que la seconde que j'ai moi, donc dans ma version, il y a écrit, « Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Mais second 21 nous dit, « Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme sur la surface de la terre. » C'est pas rien, hein. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Nombre, c'est Moïse qui a écrit ce livre. Moïse a écrit ce livre en disant, « Moïse est l'homme le plus humble de la terre, plus que tout homme sur la face de la terre. » Au cas où on n'est pas bien compris. Alors, pour chacun de nous, on dirait, ben, franchement, c'est un peu gonflé, quoi. Dire que tu es le plus humble, c'est un peu gonflé. Mais vous savez que la parole de Dieu est vraie, et que si Dieu a dit à Moïse d'écrire que Moïse était l'homme le plus humble du monde, il était réellement l'homme le plus humble du monde d'obéir à Dieu et d'écrire qu'il était l'homme le plus humble du monde. Il a fallu de l'humilité pour Moïse d'écrire ça sur son propre compte. Et c'est ça la véritable humilité. La véritable humilité, c'est pas se mettre plus bas que terre, comme on peut voir ça dans beaucoup de religions. Plus tu es carpette, plus tu es humble, pas du tout. La véritable humilité, c'est de ne pas choisir soi-même quelle opinion on a de nous. Choisir soi-même notre opinion de nous, c'est de l'orgueil. Pour nous, accepter l'opinion de Dieu sur nous-mêmes, c'est de l'humilité. 1 Jean 3:1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voilà comment Dieu nous voit. Dieu dit, tu es mon enfant. C'est de l'orgueil de refuser ça. Et c'est de l'humilité de l'accepter. Dire, moi je suis un enfant de Dieu, tout le monde dit, oh mais pour qui tu te prends? Mais je suis désolé, mais je suis humble. Je suis obligé de m'humilier parce que quand effectivement on regarde, c'est difficile à croire. Et moi, par la foi, je le dis et je le proclame. Et je tiens ferme là-dessus. Romains 8, verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça veut dire, depuis toute éternité, dans son plan, c'était de nous transformer en l'image de son Fils. afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc si moi je ne me considère pas juste, je suis orgueilleux. Si je ne considère pas que je suis quelqu'un qui suis justifié, je suis orgueilleux. Parce que je n'accepte pas l'opinion de Dieu sur moi. Je n'accepte pas la décision de Dieu sur moi. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ah mais moi je ne vois rien. Donc, on enlève ce verset, on fait quoi? Ou alors toi tu as raison et Dieu a tort? Ou est-ce que tu l'acceptes? Romains 6, 11. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Oh, mais moi le péché est vivant dans ma vie. Ta réaction est une réaction d'orgueil. Parce que Dieu dit, tu dois te regarder comme mort au péché et vivant pour Dieu. Tu dois considérer l'autorité de la parole plus forte que ta manière de voir les choses. Hébreux 10, 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Tu es parfait, tu es sanctifié et tu es parfait pour toujours. Oh mais non, mais moi, non, mais je suis qu'un simple être humain. Mais non, moi je ne suis pas parfait. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans les églises, mais en général, dès qu'on commence à dire tu es parfait, il y a toujours quelqu'un qui va venir dire oui mais attendez, nous on n'est que, etc., etc. Tout de suite il faut rabaisser, tout de suite. Oh oui, comme ça on est bien humble, surtout pas d'orgueil. Et on se rend compte, en réalité, que le véritable orgueil, c'est celui qui se place au-dessus de Dieu. Celui qui est humble est capable de dire « Oui, je suis parfait pour toujours parce que j'ai été sanctifié par le Seigneur et je me soumets à sa parole. » Que je le vois ou non, la seule différence, c'est que si je ne le crois pas, je ne risque pas de manifester quoi que ce soit. Mais si je le crois, ça va finir par se voir. C'est comme ça que ça fonctionne. Marc 16, 18, allez même 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je me place au-dessus de la parole de Dieu? Est-ce que je veux faire le humble? Non, mais c'est pour d'autres personnes. Moi, j'ai besoin encore que Seigneur travaille mon cœur. Tu parais bien humble, mais en réalité, tu es tourné sur toi-même et tu es orgueilleux. Parce que tu te mets au-dessus de la parole de Dieu. Et c'est de l'humilité de dire, oui, je vais aller, je vais imposer les mains. Et parce que Dieu l'a dit, les malades seront guéris. Psaume 119, verset 65. Et vous allez voir maintenant la différence de compréhension d'un verset. Simplement avec ce qu'on a dit là. Psaume 119, 65. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Et là, on peut le prendre en disant, oh là, mais ça y est, alors Dieu va l'écraser, il va falloir qu'il subisse quelque chose de terrible, etc., etc. Non, ça veut simplement dire, tant que j'étais orgueilleux, je n'arrivais pas à suivre la parole de Dieu. Maintenant que j'ai décidé de m'humilier devant Dieu, maintenant que j'ai décidé que lui, il est Seigneur, et pas moi, maintenant j'arrive à comprendre sa parole. Maintenant j'observe ta parole, j'arrive à la suivre. Et ça c'est important, ça c'est vraiment capital. Tout à l'heure je disais, une doctrine simple c'est, si c'est bon c'est Dieu, si c'est mauvais c'est le diable. J'ai une autre doctrine simple aussi, c'est il n'y a qu'un Dieu et ce n'est pas toi. On ne peut pas nous se placer au-dessus de Dieu. Notre part, c'est de nous humilier devant Dieu. Notre part, c'est de reconnaître que lui, il édicte les lois. Lui, il édicte ce qui est vrai. Lui, il décide. Lui, il choisit le chemin et il dit « marche-y ». Ma part, c'est d'accepter, de me soumettre à la parole de Dieu, quand bien même ça me choque. Et tant mieux d'ailleurs si ça me choque, parce que ça veut dire que ça heurte une philosophie qu'il va falloir que je laisse de côté. Il faut aussi savoir que l'ego ne peut jamais être satisfait. Quand tout tourne autour de soi-même, on n'est jamais satisfait. Donc une raison de plus pour essayer de se rendre compte lorsque justement on a des attitudes tournées vers nous-mêmes, parce que de toute façon on ne sera jamais heureux là-dedans, jamais. Ça ne marche pas. C'est une séduction de le croire. Dans une armée, et je suis désolé d'utiliser ces termes, mais on est aussi l'armée du Seigneur. Mais dans une armée, tu dois obéir, même si ça te coûte quelque chose. On a fêté il n'y a pas longtemps le débarquement, et vous savez comment ça s'est passé, le débarquement en Normandie. Les bateaux sont arrivés et ont amené beaucoup de soldats. Les généraux savaient parfaitement que les premiers bateaux allaient tous essuyer les tirs, que tous les gens qui seraient dans les bateaux seraient tués, et ceci permettrait ensuite à une deuxième vague de venir, puisqu'il n'y aurait plus de munitions pour les Allemands. L'ordre, c'était « vous y allez ». Eh bien, vous savez qu'ils y sont allés. Ils l'ont fait, ils ont obéi. Et c'est quelque chose de terrestre. Leur commandant n'était pas Dieu lui-même. Et ils ont obéi, ils l'ont fait. Quand bien même, ça leur a coûté leur vie. La question pour nous à se poser, c'est jusqu'où je suis prêt à aller. Est-ce que oui ou non, je vais me soumettre à Dieu au point que s'il me dit de faire quelque chose, je le fais. Peu importe ce que ça coûte. C'est pas évident à dire, hein. C'est pas évident à entendre non plus. Mais quelque part, notre philosophie, ça doit être « je dois obéir à Christ ». Si Dieu parle, j'obéis. Point. Ça s'arrête là. C'est vraiment un exemple qui vaut peu de choses, mais c'est pas grave. Mais je peux vous dire qu'avant de faire ce collège, j'ai eu beaucoup de fois une boule au ventre. En me disant « mais qu'est-ce que tu es en train de fiche, quoi ? Pourquoi tu y vas ? Qu'est-ce qui va se passer après ?» Ça arrive tout le temps. Sauf que quand j'ai compris que Dieu m'avait parlé à ce sujet, ben j'ai capitulé. Si c'est lui qui m'a demandé de le faire, je dois faire. Après, effectivement, il faut être sûr qu'il nous le demande. Mais plus on le connaît, plus on entend sa voix. C'est dit, mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent. Je les connais, je les appelle par leur nom. Il y a une connaissance intime. On est capable, chacun de nous, d'entendre la voix du Seigneur précisément. On est capable, à un moment donné, d'avoir la paix dans le cœur et de dire, j'irai. Je ne pense pas avoir lu ce passage, mais j'y pense juste là. Alors, acte 21. À partir du verset 10, « Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. On a compris le message, mais remarquez que le message ne dit pas de ne pas aller. Il dit « voilà ce qui va se passer ». Et nous savons que c'est ce qui s'est passé. C'est à cause de cela qu'il a pu aller à Rome et faire tout ce qu'il avait à faire, entre parenthèses. Attention aux interprétations aussi. Chemin facile. Le Saint-Esprit était en train de prévenir Paul en disant « tu auras des tribulations ». Et Paul, qui savait là où Dieu le voulait, répond, verset 13, « mais que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas. Et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. C'est extraordinaire. Quand on sait la direction que le Seigneur veut pour nous, on doit aussi être dans cette disposition en disant, ben oui, si le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose, je dois le faire. Et si ça me coûte la vie, peut-être qu'il se produira la même chose qui s'est passée dans Acte 7, quand Étienne a été lapidé, et où il est dit que Étienne a vu Jésus debout, alors que nous savons que Jésus est assis, en réalité. C'est fort, parce que c'est, quelque part, c'est Jésus lui-même qui est fier d'Étienne, et qui se lève, et qui dit « voilà mon serviteur, qui a obéi jusqu'au bout ». Donc, nous devons apprendre à avoir ce courage de dire « si Dieu me dit quelque chose, je le fais ». Le prix importe peu. Quelqu'un avait dit à une réunion de prière, il n'y a pas longtemps, avait dit « Dieu m'a demandé de faire telle et telle chose, mais d'une part, je suis un peu vieux pour le faire, d'autre part, il y a cette difficulté, et puis celle-ci, celle-ci. » Et donc, j'ai dit, ça n'a pas été bien compris, mais j'ai dit « Peut-être que Dieu ne savait pas que tu étais trop vieux et qu'il y avait ces difficultés, si tu as demandé de le faire. » La personne à côté de moi m'a dit « Mais enfin, tu ne peux pas dire ça. » Je dis « Ben justement, justement, c'est justement ce que je veux dire. Si Dieu te le demande, il est au courant de la situation. » Il sait les difficultés que tu vas rencontrer. Il sait les incapacités que tu as. Ça ne sert à rien pour toi de les nommer. Ça ne sert à rien pour toi de te focaliser dessus. S'il t'a parlé, tu fais. Alléluia. Bon, allez, j'arrête là. Ça suffit. Okay, c'est...